Chapitre 7. Mission sauvetage, seconde partie. Alors que Fergus et Vera buvaient le polynectar d'un trait, la montre de Daisy s'assombrit encore et se mit à vibrer. Il n'y avait plus de doute. Les mange-morts se rapprochaient d'eux, et à toute vitesse. Un peu plus tard, Daisy scrutait anxieusement les rideaux de pluie charriés par le vent qui s'abattaient sur le parking désert et sur les parois vitrées du centre commercial. Grâce à l'inconnu qui les avait miraculeusement devancés pour annoncer l'attaque à tous les moldus qui se trouvaient dans les environs, le parking avait été déserté en un temps record. Daisy était donc seule, encore entourée de quelques véhicules dont les propriétaires avaient sans doute décidé de s'enfuir à pied. Elle avait enclenché le bouton d'invisibilité de son camion rose et se trouvait ainsi à l'abri de tous les regards. Aussitôt après avoir bu le polynectar et accompagnée du raveluc Albert, ses deux parents avaient transplané pour entrer dans le centre commercial et n'avaient pas reparu depuis. Et plus le temps passait, plus Daisy se sentait inquiète. Certes, pour que l'opération se déroule comme prévu, il était capital qu'elle reste dans ce maudit camion. Mais la tentation d'aller vérifier que ses parents se portaient bien était de plus en plus forte. Afin de se rassurer, Daisy se retourna vers l'arme redoutable qui se trouvait juste derrière elle, cachée à l'arrière du camion, et souleva un coin de l'immense bâche rose qui la recouvrait. « Lumi ?» chuchota-t-elle. « Tu n'as pas trop chaud ?» Un gargouillement peu appétissant lui répondit. Un appendice gélatineux lui caressa la main, et Daisy se détendit un peu. Élevée dans l'étang de leur jardin, leur lumi-mort apprivoisé avait atteint une taille record, et Daisy était d'autant plus curieuse de le voir en action que c'était la première fois qu'ils avaient recours à ses services en conditions réelles. Les premières fois, les Goyles s'étaient contentés de mettre à l'abri les moldus menacés. Mais cette fois-ci, Daisy avait très justement fait remarquer que ces attaques étaient une excellente occasion de riposter et de s'en prendre aux mange-morts regroupés. Daisy se pencha pour voir en dessous de la bâche et sourit au lumi-mort, ignorant s'il pouvait la voir ou non. L'étrange animal ressemblait plus à une montagne de jelly à la menthe qu'à une créature douée d'intelligence. Translucide, informe, vert et fluorescent, dépourvu de tout ce qui pouvait ressembler à un visage ou à un squelette, il faisait la taille d'un éléphant et manifestait sa satisfaction ou son mécontentement par de charmants petits gargouillements qui éclaboussaient tout ce qui l'entourait. « Tiens-toi prêt, » dit Daisy à voix basse, « ce sera bientôt à nous de jouer. » Au milieu de la masse gélatineuse et fluorescente, on pouvait voir un amas de projectiles ailés en plastique, tous semblables les uns aux autres. Daisy sourit en pensant à la mixture explosive qu'ils contenaient et aux dégâts qu'ils allaient causer dans les rangs des mange-morts. Aidée par sa mère, elle avait rassemblé dans la même potion les ingrédients les plus inflammables, les plus aveuglants, les plus corrosifs qu'elle ait pu trouver, du venin de mygale géante aux excréments de brasier poilu, en passant par de la poudre de pétard du docteur Flibuste. Et bien heureusement, le lumi-mort gélatineux était insensible à tous ces produits. Il était tout simplement indestructible. Un peu rassérénée, Daisy lâcha la bâche et la laissa retomber sur sa cargaison qui émit un nouveau gargouillement d'impatience. Suspendu à côté d'elle, le petit miroir qui lui permettait de communiquer avec ses parents restait obscur, car son jumeau se trouvait dans la poche de son père. À travers ce miroir enchanté, Daisy entendait seulement Fergus, ou plutôt le policier dont il avait emprunté la voix et l'apparence, dialoguer avec les moldus qu'il guidait vers la sortie. « À votre service, chère madame. Voilà, c'est tout droit. Non, ne paniquez pas, nous avons encore quelques minutes devant nous. Oui, oui, les secours vont arriver. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Pendant que son père se remettait en quête d'autres moldus à secourir, Daisy se cramponna à son volant pour se retenir de les rejoindre et de leur prêter main forte. Même si son rôle était crucial, et même si ses parents avaient catégoriquement refusé qu'elle les remplace, il lui coûtait de rester inoccupée pendant qu'ils allaient au-devant du danger. Au moment où elle pensait cela, un éclair vert illumina une vitrine au dernier étage du centre commercial, et Daisy sursauta, le cœur battant à tout rompre.
« Hop hop !»
disait son père depuis le rétroviseur magique.
« Attention, messieurs dames, vous risqueriez de blesser quelqu'un. Et je vous en prie, arrêtez de vociférer de la sorte, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Quoi ? Vous me menacez ? Vous voulez m'étriper, comme c'est charmant. »
Le cœur de Daisy fit un bond dans sa poitrine. Elle délogea le rétroviseur de son socle et le rapprocha anxieusement de son oreille afin de mieux entendre.
« Voilà, voilà, pas la peine de s'énerver, » chantonnait Fergus. « Vous savez, je suis un peu dur de la feuille. Quoi qu'il en soit, puis-je vous complimenter sur votre tenue? Tout ce noir, c'est d'une élégance. Et vos cagoules, c'est du cachemire ?
Oui, vous avez bien raison, c'est ce qu'il y a de plus chaud par ce temps glacial.
« Assez !»
cria une voix masculine plus lointaine. Daisy posa sa main sur sa portière, tremblante.
« Doucement, doucement, inutile de… aïe ! De me secouer comme ça, ouille !»
Daisy jeta un coup d'œil à la montre qu'elle portait à son poignet. Le bracelet était de plus en plus froid et s'obscurcissait dangereusement. Dans le cadran, un minuscule serpent progressait en spirale jusqu'au centre de la montre, où se trouvait la marque des ténèbres. Si les calculs de Daisy étaient corrects, les mange-morts arriveraient lorsque le serpent atteindrait la marque des ténèbres. Et à ce moment-là, il fallait absolument que Daisy soit dans le camion, car sinon, les mange-morts bombarderaient les environs en un rien de temps, et personne n'aurait le temps de réagir, ni de s'éloigner.
« Enfin !» disait Fergus. « Quel manque de courtoisie !»« Andoloris !»
Fergus se tut pendant plusieurs secondes, et lorsqu'il parla à nouveau, sa voix n'était plus du tout enjouée, même s'il s'efforçait de donner le change.
« L'endroit est très joli. Vous ne trouvez pas tous ces vêtements ?»
À chaque silence qui entrecoupait ses paroles, Daisy pouvait presque voir son père se crisper sous les assauts de ses adversaires, déployant tous ses efforts pour masquer sa détresse à sa fille, pour la dissuader de venir à son secours. Daisy ouvrit brusquement la portière, prête à enfourcher son balai, mais s'interrompit à nouveau en voyant les deux policiers endormis dans la voiture qui se trouvait à côté de son camion. Et si on les attaquait pendant son absence? Et si quelqu'un détruisait leur véhicule?
Alors, tu vas parler maintenant?
Daisy était toujours figée, un pied sur le bitume, l'autre dans le camion, incapable de se décider. Mais soudain, un grand fracas retentit à travers le petit miroir et le ton du sorcier qui avait attaqué son père changea du tout au tout.
Ah ! Qu'est-ce que ? Aide-moi ! Argue ! Saleté ! Viens, on s'en va !
Et au bout de quelques instants, Daisy entendit son père pousser un petit gloussement, puis un bruit de friction lui indiqua qu'il se relevait.
« Formidable, Albert ! Félicitations !»
Daisy entendit le ravelu qu'Albert pousser un grognement enthousiaste. Et c'est l'instant que choisit Vera pour réapparaître à côté de Daisy, sous l'apparence de la policière Wally Silver.
« Maman !
Tous les moldus sont à l'abri, » dit Vera le souffle court.
« J'ai dû secouer un peu les autres policiers, ils étaient toujours sceptiques. Mais le centre commercial est désert et j'ai renforcé la brume dans les environs pour que les mange-morts ne se doutent de rien. J'ai aussi convaincu notre commandant de prévenir ses supérieurs afin que l'attaque arrive jusqu'aux oreilles des aurores. Où est ton père ?
Toujours à l'intérieur. Va vite le chercher, les mange-morts seront bientôt là. »
Vera obtempéra sans discuter et transplana. Elle réapparut quelques instants plus tard à l'arrière du camion, accompagnée par Fergus et Albert.
« Fergus, vous avez été attaqué !»
s'indigna Vera en examinant l'entaille que son mari avait sur la joue.
« En effet, » répondit joyeusement Fergus. « Ils étaient deux, et je dois dire qu'ils n'étaient pas très aimables.
Qui était-ce ? Des mange-morts ? »
Fergus haussa les sourcils perplexes.
« Vous allez rire, Vera chérie. Je suis navrée, mais dans mon affolement, j'ai oublié de leur poser la question. »
Vera secoua la tête, abasourdie. Elle et Fergus allaient bientôt fêter leurs 30 ans de mariage, mais elle restait toujours décontenancée par l'insouciance absolue de son mari.
« Mais est-ce que nous les connaissons ? À quoi ressemblaient-ils ? Ce n'étaient pas les carreaux. »
« Je ne connaissais pas la voix que j'ai entendue, » intervint Daisy.
« En effet, c'était la première fois que nous faisions connaissance, » confirma Fergus. « Mais tous les deux semblaient bien se connaître, » et leurs vêtements étaient brodés du même blason, un scarabée argenté. En leur demandant gentiment, ils m'auraient peut-être renseigné sur leur identité.
Peut-être des nouvelles recrues, supposa Vera. Habituellement, ce sont les sans-pur qui exhibent ces blasons idiots. Comment avez-vous fait pour les neutraliser ?
Oh, c'est Albert qui les a pris par surprise. Il a détaché un panneau publicitaire qui est tombé sur eux. Puis il a griffé l'homme au visage, et le temps que je reprenne mes esprits, tous les deux avaient pris la fuite. Vraiment, ce Raveluc est un petit génie. Sur l'épaule de Fergus, Albert bombait fièrement le torse. « Heureusement qu'il est là pour veiller sur nous, » soupira Vera en s'épongeant le front. « Et vous, chère Vera, avez-vous retrouvé la femme qui nous a aidés tout à l'heure ?»«
Non, » soupira Vera dépitée.
« J'ai cherché partout. Je suis allée là où les employés font des annonces au micro. Il y avait des traces de lutte, mais aucune trace d'elle. »«
Des traces de lutte, » répéta Fergus pensif.
« Les deux sorciers qui m'ont attaqué semblaient sortir d'un combat, eux aussi. » « Ce sont peut-être eux qui l'ont interrompu tout à l'heure, » frissonna Vera. « Je me demande de qui il s'agit, et j'espère que, comme vous, elle a réussi à s'enfuir. »
À côté d'eux, Daisy s'essuya les tempes d'un revers de main et reporta son attention sur ce qu'il se passait autour d'eux. À côté du camion, dans la voiture de police, Wallis et Max dormaient toujours. Sur le parking en contrebas, plusieurs personnes venaient de surgir de nulle part, déguisées en policiers.
« Les aurores sont là, » indiqua-t-elle à ses parents. « Votre alerte a fonctionné. »
Ils étaient reconnaissables à leur mauvaise utilisation des vêtements moldus. Certains portaient leur uniforme à l'envers et d'autres portaient leur couvre-chef autour du cou. Mais Daisy fut distraite de ce spectacle amusant par une sensation de froid intense sur son poignet. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Au milieu du cadran, la langue fourchue du serpent commençait à effleurer la marque des ténèbres. Sous ses mains, le volant du camion vibrait de plus en plus fort. Daisy se retourna et constata que le lumimort s'était mis à bouillir d'excitation et à briller avec plus d'intensité. Au-dessus d'eux, le ciel s'obscurcit en quelques secondes et d'innombrables traînées noires et menaçantes apparurent à l'horizon.
« Ils arrivent, » signala Daisy. « Vous êtes prêts ?»«
Vas-y, ma fille, » dit Fergus en s'écartant du lumimort qui faisait trembler le camion entier. « Donne-leur le spectacle qu'ils méritent !»
Autour d'eux, l'air devenait plus froid et les environs basculaient dans l'obscurité, comme si la nuit tombait à toute vitesse. En dehors des quelques aurores inquiets, le parking était désert. Daisy se retourna vers le lumimort, qui semblait ne vouloir qu'une seule chose, larguer ses munitions et atteindre ses cibles de plein fouet. La nuée de mange-mort s'approchait. Daisy décida que c'était le bon moment. Elle actionna un levier qui ouvrit le toit du camion, puis tira d'un coup sec sur la bâche, qui se déchira avec un grand bruit. Aussitôt, le lumimort se mit en action. Son grand corps gélatineux se mit à bouillonner, puis se contracta avec un gargouillement répugnant, et les fusées qu'il contenait s'élevèrent dans le ciel à une vitesse remarquable.
« Il les a crachés ?» demanda Fergus.
« Je ne sais pas de quel type d'orifice il s'agit, » admit Vera en mettant ses jumelles devant ses yeux. En revanche, nos petites expériences nous ont appris que sa salive était douée d'une volonté propre et pouvait poursuivre sa cible pendant des kilomètres. N'est-ce pas superbe ? Comme attirés par de puissants aimants, les projectiles gagnèrent en altitude avec une vitesse croissante et allèrent immédiatement à la rencontre du cortège de mange-mort, et l'effet de la collision fut encore plus grandiose que prévu. La puissance de la potion explosive outrepassa toutes les espérances des Goyles. Dès la première explosion, un rideau de feu barra le passage des mange-morts. Ceux-ci dévièrent immédiatement leur trajectoire, mais les fusées continuèrent de les pourchasser impitoyablement. Et à chaque seconde, d'autres feux d'artifice enflammés explosaient dans le ciel, mêlant leur lumière vive aux traînées noires que laissaient les mange-morts derrière eux. Depuis leur poste d'observation, les Goyles pouvaient presque entendre les gémissements de douleur des mange-morts qui battaient en retraite après avoir reçu du venin de mygale géante dans les yeux.
« Bingo !» s'enthousiasma Daisy.
De nombreux mange-morts rebroussaient chemin vers l'horizon, d'autres tombaient vers le sol en tourbillonnant, aussitôt cueillis par des aurores. Les plus récalcitrants évitaient avec agilité les projectiles que le lumimort leur avait lancés et poursuivaient leur route, mais ils étaient trop peu nombreux pour causer de sérieux dommages. De plus, le largage de munitions n'avait duré qu'une fraction de seconde, et le camion des Goyles étant toujours invisible, aucun mange-mort n'avait réussi à identifier l'origine des projectiles. Dans l'habitacle, les trois Goyles se réjouissaient du spectacle. Leurs visages rayonnants étaient éclairés par intermittence par les explosions successives qui illuminaient le ciel au-dessus d'eux.
« Encore une réussite !» se réjouit Fergus. « Qu'est-ce qu'on s'amuse !»
Il fallut encore un quart d'heure pour que les mange-morts se dispersent complètement. Puis tout redevint calme et les Goyles se détendirent enfin.
« Bien joué, Lumi !» dit Daisy en se tournant vers l'arrière du véhicule, en plein dans le mille. Le Lumimor avait épuisé toutes ses munitions et sa taille avait drastiquement diminué. Il faisait maintenant la taille d'un petit coussin. Il frétillait de joie en rampant vers les goyles tout en laissant derrière lui une traînée de salive phosphorescente. « Il est temps de rentrer, » décida Vera. « Je vais éloigner ces deux policiers du champ de bataille au cas où des mange-morts auraient la mauvaise idée de revenir un peu plus tard. Je prends Albert avec moi. Quant à vous, rentrez à moto avec Lumi et les chuchouris. Et faites attention, d'accord ?»«
D'accord !» dirent en chœur Daisy et Fergus.
« Fergus, vous avez toujours votre miroir ?»
Fergus mit sa main dans sa poche et prit aussitôt un air contrit.
« Vous allez rire !» s'excusa-t-il. « Je crois bien que je l'ai oublié à l'intérieur, en voulant me recoiffer après ma petite altercation. »«
Tant pis !» décréta Vera. « Ce serait trop risqué de retourner le chercher maintenant. Un aurore pourrait vous prendre pour un mange-mort. Je vais les désactiver, afin que personne ne puisse nous retrouver. »
Vera pointa sa baguette sur le petit miroir et désactiva le sortilège qui le reliait au deuxième. Puis elle prit Albert sur son épaule et ouvrit la portière pour sortir du camion, redevenant ainsi visible aux yeux de tous. De son côté, Daisy posa le Lumimor sur ses genoux et appuya sur un gros bouton rose situé sur son tableau de bord multicolore, en dessous du bouton d'invisibilité. Aussitôt, sous ses pieds, le camion se métamorphosa. L'arrière commença par se replier, puis se rétracter jusqu'à atteindre la taille d'une petite boîte. Le siège de Fergus se plaça derrière elle, les quatre énormes roues se rapprochèrent, fusionnèrent pour n'en former que deux, et glissèrent sur le bitume pour se rassembler près des pieds de Daisy. Entre ses mains, le volant s'amincit pour former un guidon robuste, et le tableau de bord rétrécit pour se placer face à elle. Une fois que leur moto eut retrouvé sa forme initiale, Daisy vérifia que son père était bien installé, serra ses jambes autour du siège, donna une petite caresse au Lumimor gélatineux, puis mit le contact et s'envola vers la colline d'Émeraude, toujours invisible. Vera, quant à elle, monta à l'avant de la voiture de police et prit une grande inspiration. Tout s'était bien passé. Aucun moldu n'avait été tué, les mange-morts étaient en fuite, sa famille et ses animaux de compagnie seraient bientôt en sécurité. Un peu plus détendue, elle se retourna vers la banquette arrière où Alice et Max dormaient paisiblement.
« Vous n'avez pas bougé d'un pouce, » remarqua-t-elle avec amusement.
« En effet, » dit une voix masculine et brutale dans son dos. Albert poussa un glapissement terrifié, Vera fit volte-face, mais il était trop tard. Un sorcier vêtu de noir au visage griffé ouvrit la portière avec fureur. Il empoigna le bras de Vera pour la tirer violemment hors de la voiture et la jeta au sol. Elle sentit le bitume lui érafler les mains, une vive douleur se répandit dans son coude et un objet dur s'enfonça dans ses côtes. Albert essaya de s'attaquer à leur agresseur, mais le sorcier fut plus rapide. Un éclair jaillit de sa baguette et frappa Albert de plein fouet. Le petit Raveluc tomba à ses pieds, inanimé.
« Albert !» gémit Vera.
« Tu ne mourras plus, sale bête !» rugit l'homme en l'écartant d'un coup de pied. « Et pour toi ?»
Il se tourna vers Vera, écumant de rage, et elle frissonna en réalisant à quel point il était imposant. Vera n'avait jamais vu un sorcier aussi grand, et encore moins avec une musculature aussi développée. Il devait mesurer un peu plus de 2 mètres et peser un poids tout aussi impressionnant. Il était vêtu de noir et Vera était certaine de ne l'avoir jamais rencontré auparavant. Une femme se trouvait avec lui. Tous deux étaient habillés du même tissu sombre et coûteux, brodé du même scarabée argenté.
« Qui êtes-vous » haleta Vera.
« Qui vous a engagé ? »
« Tais-toi et donne ta baguette à ma femme !»
répondit l'homme en désignant sa compagne.
« Et pas d'embrouille, ou bien je tue immédiatement les 2 moldus dont vous avez pris l'apparence. »
Joignant le geste à la parole, il pointa sa baguette sur la voiture où dormaient les 2 policiers. Vera regarda autour d'elle catastrophée, mais elle ne vit personne d'autre. La plupart des aurores avaient quitté les lieux, emportant des prisonniers avec eux. Personne ne pouvait lui venir en aide. Désespérée, elle obtempéra le plus lentement possible et fit rouler sa baguette sur le sol. La femme ne disait rien, mais cela la rendait encore plus effrayante. Son visage était hermétiquement fermé et son regard de fureur pure semblait vouloir transpercer Vera. Sa manche gauche était déchirée. Sur son avant-bras ensanglanté, il n'y avait aucune trace de marque des ténèbres.
« Vous n'êtes pas des mange-morts, » remarqua Vera.
« Mais alors ?»«
Pas encore !» rugit l'homme, faisant sursauter Vera. « Mais ça ne saurait tarder !»
Il marcha droit sur elle, hors de lui.
Quand ils verront que nous t'avons attrapé, ils n'auront pas le choix, siffla-t-il. Et nous, les Warrington, serons enfin considérés comme de véritables sang-purs. Pas vrai, Alamira ?
Vera essaya de rassembler ses pensées, malgré la panique qui menaçait de nouveau de l'envahir. Warrington, cela lui disait bien quelque chose, mais elle n'avait pas le temps de s'y attarder. Il fallait trouver une solution, et au plus vite. Elle pouvait bien transplaner, mais alors les deux policiers seraient en grand danger. Ce dénommé Warrington semblait violent et cruel. Il n'hésiterait certainement pas à les tuer. Non, ce n'était pas envisageable de les abandonner ainsi, sans défense.
« Alors ?» exhorta Warrington en se penchant sur elle. « Pour qui te prends-tu pour croire que tu allais déjouer les plans du Seigneur des Ténèbres en te déguisant en Moldu ? Tu as vraiment cru sincèrement que tu allais y arriver ? Tu es comme cette pauvre fille avec son annonce au micro.
Où est-elle ? » demanda vivement Vera, de plus en plus effrayée. Warrington éclata de rire.
« C'est sans doute elle que vous cherchiez tout à l'heure, » dit-il avec un sourire sinistre. « Vous n'aviez aucune chance. Je l'ai trouvée avant vous. Elle a à peine eu le temps de finir sa phrase. »
Derrière lui, sa femme poussa un ricanement moqueur qui fit frissonner Vera.
« Et maintenant tu vas me dire qui t'es ?» poursuivit le sorcier. « Sinon, Andoloris !»
La douleur que ressentit Vera à ce moment-là dépassait tout ce qui était imaginable. Elle avait l'impression que des milliers d'aiguilles chauffées à blanc lui transperçaient la peau, que l'intérieur de son corps s'était mis à bouillir, qu'une énorme enclume l'écrasait de tout son poids, et tout ceci simultanément. Elle voulut crier, mais le souffle lui manquait.
« Réponds !» ordonna l'homme, tout en agitant sa baguette sous son nez. « Je vois bien que tu as pris l'apparence de cette saleté de Moldu, et malheureusement il n'existe pas d'antidote immédiat, mais bientôt la potion cessera de faire effet. » Et alors je saurai qui tu es, et j'en déduirai sûrement qui sont tes complices.
Je m'appelle Wallis Silver, hoqueta Vera.
Menteuse ! Andoloris !
À nouveau, la douleur indescriptible la cloua au sol. Vera retomba en arrière et sentit à nouveau un objet dur s'enfoncer dans ses côtes, exactement au même endroit. Sonné. Elle mit quelques instants à comprendre que l'objet en question se trouvait dans la poche de sa veste. Sans qu'elle ne sache pourquoi, ses pensées la portèrent vers un passé proche, juste avant l'attaque. Elle parlait avec Daisy. Elle était à côté de Fergus et tous les deux discutaient en riant. Peut-être qu'elle ne les reverrait plus, ni l'un ni l'autre. Au-dessus d'elle, Warrington continuait de vociférer, mais Vera ne l'entendait plus. De quoi avait-il parlé déjà ? De ces horribles poupées moldues. La douleur rendait ses pensées difficiles à suivre. Elle voulut fermer les yeux, mais le sorcier la secouait comme un prunier et la forçait à le regarder pendant qu'il continuait de crier. Et avant ça, de quoi d'autre avait-il parlé avec Fergus ? Pour une raison mystérieuse, cela lui semblait être d'une importance capitale. Il s'était moqué de ces policiers naïfs qui avaient si bien cru au sortilège de faux souvenirs qu'elle leur avait lancé, et qui avaient cru les effrayer avec l'arme métallique que Wallis avait brandie devant elle. Vera tressaillit. L'arme de la policière. C'était ça qu'il y avait dans sa poche. C'était cet objet dur et froid qui s'était enfoncé dans ses côtes lorsque ce Warrington l'avait jeté au sol. Vera ne savait pas ce que c'était, mais vu comme Wallis Silver avait été confiante en pointant l'arme sur elle, puis surprise lorsque Vera n'avait pas scié, l'arme devait être puissante. Au-dessus d'elle, Warrington se leva de plus en plus furieux. Il revenait vers la voiture. Il menaçait de la faire exploser. Vera mit discrètement la main dans sa poche, mais les deux sorciers n'y prêtèrent aucune attention. C'était là une faiblesse qu'avaient en commun tous les sorciers, la méconnaissance absolue des mœurs moldues et l'absence totale de considération pour leurs différents équipements. À leurs yeux, elle était dépourvue de baguettes et ne représentait donc plus aucune menace. Comment Wallis avait-elle tenu son arme ? Oui, comme ceci exactement. Derrière les deux sorciers, sur une affiche publicitaire, deux personnages se battaient avec une arme qui ressemblait à s'y méprendre à celle de la policière. Par leur manière de les tenir, Vera en déduisit que l'équivalent d'un sortilège devait jaillir par le petit trou rond qui se trouvait à l'extrémité de l'arme, et ils avaient l'index crispé sur ce qui devait être le déclencheur. Tout en tâtonnant dans sa poche, Vera serra les poings. Si l'arme parvenait à étourdir son adversaire pendant quelques secondes, elle pourrait lui donner l'occasion de le neutraliser et de s'échapper.
« Tu l'auras voulu !»
rugit Warrington, sa baguette toujours pointée sur les deux policiers endormis dans la voiture.
« « Avada Ké !» Vera se redressa brusquement, tendit le bras vers le sorcier et appuya sur le déclencheur. Elle laissa aussitôt échapper un cri et lâcha l'arme, surprise par la puissance de la détonation produite par un objet si petit et dépourvu de magie. Elle regarda sa main engourdie, soulagée de l'avoir indemne, puis elle leva les yeux vers les deux Warrington, mais il n'y en avait plus qu'un. Non loin d'elle, Alamira Warrington s'était figée de stupeur. Ses yeux écarquillés d'horreur fixaient son mari étendu sur le sol, la poitrine ensanglantée et le regard vide. Vera regarda l'arme moldue et comprit qu'elle venait de tuer quelqu'un. Elle hésita un instant entre s'excuser et s'enfuir à toutes jambes, mais elle n'eut pas le temps de se décider. Une pluie de sortilèges s'abattit sur Alamira Warrington et elle fut neutralisée à son tour. Vera s'empressa de récupérer sa baguette qui avait roulé sur le sol. Elle tendit le bras vers Albert et l'attira contre elle, immensément soulagée de constater que son petit Raveluc respirait toujours. Puis, usant des dernières forces qui lui restaient, elle rampa sur le sol jusqu'à la voiture la plus proche afin de se cacher aux yeux des nouveaux arrivants. En un instant, 5 aurores atterrirent autour de la voiture de police. 3 d'entre eux se saisirent d'Alamira Warrington et transplanèrent vers une destination inconnue. 2 autres restèrent sur place pour examiner les lieux, baguette en main. Vera reconnut à la Storm Ogrey et l'un de ses collègues, Tiberius Friedels. Adossée à une voiture à quelques mètres de là, elle se fit aussi discrète que possible et dissimula Albert dans sa veste. Sans la voir, Maugret marcha à grands pas vers la voiture de police. Il regarda à travers la vitre et constata que les 2 policiers ronflaient paisiblement. « Ces 2-là ont seulement été endormis, » signala-t-il. « En revanche, celui-là est bien mort, » dit Friedels en se penchant sur Warrington. Vera était en train de se demander comment elle allait s'y prendre pour rentrer chez elle avant de s'évanouir, quand elle croisa le regard d'Alastor Maugret. L'aurore examina en un instant sa tenue de policière, son visage identique à celui de la femme moldue qui se trouvait dans la voiture, la baguette qu'elle tenait dans la main, puis l'arme moldue qui se trouvait à ses pieds. Et il sembla aussitôt comprendre tout ce qui venait de se passer. À côté de lui, Friedels aperçut Vera à son tour et pointa vivement sa baguette vers elle. « Mais c'est ça, idiot !» dit Maugret avec brusquerie. « Regardez, c'est elle qui a sauvé les 2 moldus. Et tous les autres avec, je parierais. » Vera lui sourit difficilement, indifférente à la migraine atroce qui lui perforait le crâne. « On peut dire que vous avez du cran, » marmonna Maugret à l'intention de Vera. Vera essuya d'un revers de main le sang poisseux qui dégoulinait sous son nez. Maugret désigna l'uniforme moldu qu'elle portait, maculé de taches rouges sombres. « On vous emmène faire un tour à Sainte-Mangouste ? En toute discrétion, bien sûr. » Vera secoua la tête. Quelques fourmillements sur son visage et dans le reste de son corps lui indiquaient que l'effet du polynectar touchait à sa fin. Elle porta une main à son ventre et constata qu'Albert était toujours blotti contre elle, évanoui dans sa veste. Elle se concentra pour transplaner, mais rien ne se produisit. Elle avait l'impression de vouloir escalader une paroi infranchissable, de se heurter à un mur de béton. « Allez, vous allez y arriver !» l'encouragea l'aurore, tout en restant à distance. « Vous avez bien mérité un peu de repos. » Vera hocha la tête et réussit à se concentrer un peu plus intensément. Elle eut à nouveau l'impression de passer à travers un tuyau de plomb très étroit, impression d'autant plus désagréable qu'elle dura plus longtemps que d'habitude. Enfin, elle se sentit décoller poussivement du bitume, puis l'étreinte écrasante du transplanage la libéra et elle atterrit assise sur le lit qu'elle partageait avec Fergus, comme s'il ne s'était rien passé. Autour d'elle, tout était calme. Dans leur immense chambre aux murs oranges, rien n'avait bougé. Une lumière douce filtrait à travers les plantes colorées qui poussaient devant les nombreuses fenêtres. Vera pouvait entendre monter de son jardin la clameur imperturbable et apaisante de tous les animaux qui y habitaient et le bruissement léger des plantes qui poussaient à toute vitesse sous les pattes de ses ravelucs. Cachée dans un coin, une dizaine de chuchouris grignotaient sagement le morceau de fromage que Vera leur avait laissé. Elle ouvrit les pans de sa veste et découvrit Albert, toujours inconscient. Elle palpa chacun de ses membres, ses 2 ailes vertes, et constata avec un immense soulagement qu'il n'était pas blessé. Elle l'allongea donc soigneusement sur le lit en luttant contre le tremblement de ses mains et plia la couverture pour le couvrir. Ensuite, elle voulut se lever afin de guetter l'arrivée de Fergus et Daisy, mais ses jambes étaient vides de toute énergie. Elle parvint à se redresser au bord du lit, mais retomba aussitôt à genoux sur l'herbe mauve qui recouvrait le plancher. Fatiguée de lutter, elle se laissa tomber sur le côté, puis elle sentit le sol basculer sous elle et elle perdit connaissance.
À plus de 100 kilomètres de là, à côté d'Alastor Maugret, son jeune collègue Friedels était médusé.
« Monsieur Maugret, vous l'avez laissé partir ?»«
Comme vous pouvez le voir, Friedels, » répondit tranquillement Maugret.
« Mais, monsieur Maugret, elle était là, à notre merci. Nous aurions pu découvrir son identité. »«
Et à quoi bon ?» le coupa sèchement l'Aurore. « Pour que vous la révéliez au premier mange-mort qui vous soumettra au sortilège de l'Imperium, ou à tous vos amis pour vous faire remarquer à la pause déjeuner ?» Friedels se renfrogna vexé. « Contentez-vous de la remercier, » dit Maugret. D'un geste de la main, il désigna les environs. « Rien qu'aujourd'hui, cet agent double a sauvé bien plus de personnes que vous ne pourrez jamais en rêver. » Dans le ciel, tous les mange-morts avaient disparu, soit arrêtés, soit grièvement blessés par le savant mélange dont les goyles les avaient arrosés. Quelques dommages matériels étaient à déplorer, mais il n'y avait aucune victime. Les nuages s'étiolaient lentement, et un rayon de soleil timide éclaira les carrosseries des voitures et la zone industrielle désertée. À l'intérieur de la voiture de police, Wallis Silver et Max Smith émergeaient lentement.
« Qu'est-ce que… Oh, misère !»
gémit Wallis en découvrant le parking désert et deux voitures qui brûlaient non loin d'eux.
« Que s'est-il passé ?»« On nous a piqué nos uniformes !» gémit son collègue. « Le chef va nous tuer !»
Alastor Maugret les considéra d'un œil amusé et fit quelques pas vers eux.
« Mes pauvres amis, le choc vous a fait perdre la mémoire, » leur lança-t-il. « Mais croyez-moi sur parole, vous avez été héroïques.